Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jean-Louis débarque au Bangladesh à Dhaka, la capitale emblématique des rickshaws, avec en main les coordonnées de Mustapha, un paysan devenu rickshawala. Avec lui, il plonge dans les quartiers populaires de banlieue et s'immerge aussitôt dans l'univers étourdissant des compagnies de rickshaws. Il achète lui-même un vélo-taxi pour appréhender plus encore leur quotidien et part seul au guidon de son tricycle sur les routes du pays avant de poursuivre son voyage vers l'Inde. Raconte-moi ton histoire, l'histoire qui t'a emmené sur les routes peut-être de l'Inde ou peut-être du monde, je sais pas, mais on va revenir sur ton parcours.
Alors, moi j'ai eu la chance en fait de voyager assez tôt avec mes parents et donc du coup j'ai été piqué au voyage, je vais dire ça comme ça. Et puis une fois adulte, je suis allé à plusieurs reprises en Inde à titre personnel, comme ça. Et comme tout un chacun, j'allais dire, j'ai utilisé un vélo-taxi, c'est rickshaw de l'Inde. Et au bout de 6 ou 7 voyages en Inde, au bout du compte, au retour, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu connais de ces gens-là ? Qu'est-ce que tu sais de leur vie ? Tout ce qu'on en sait, c'était des caricatures, quoi. Ils sont souvent assimilés, ces conducteurs de vélo-taxi, à des gens qui cherchent à arnaquer le touriste, à faire payer des courses toujours plus chères. Et au bout du compte, voilà, je me suis dit, ben, on va aller voir sur place comment vivent ces gens-là, quoi.
Donc ça, c'est une démarche très empathique, hein, de te mettre à la place du rickshawala, celui qui conduit ce vélo à trois roues. Mais avant de parler de ça, tu vas vite, là, tu brûles les étapes. Je vais te laisser, on a une demi-heure d'émission. Donc tu as le temps d'aller vraiment doucement. On va revenir peut-être sur l'univers avec tes parents, parce que voyager avec ses parents, déjà, c'est une chance. Et là, on est quand, dans quelle année, et c'était où, c'était quelle destination, et quelles sont les mémoires, les souvenirs qui te restent, toi, enfant, de ces voyages?
Alors, c'était dans les années 70, 75, où les premiers contacts sont été avec mon premier voyage a été avec la Tunisie, quoi. C'était le sud tunisien avec ses dunes, avec ses palmiers, avec justement des paysages tout à fait nouveaux, des populations nouvelles. On n'était pas à l'heure de l'Internet, hein, tout ça je ne connaissais pas. C'était les revues de voyage où chaque page on les ouvrait et on découvrait avec des yeux tout à fait éblouis des images qui semblaient venues d'un autre monde. Au préalable, maintenant me vient à l'idée également des connaissances du monde aussi, des voyages là par le biais du film, où je me souviens qui m'a beaucoup marqué justement un reportage sur le Zanskar. Donc c'était des gens qui dans les années 70 et avaient passé un hiver au Zanskar. Donc à l'époque, voilà, il fallait vraiment regarder de près une carte de l'Inde, la parcourir, remonter le nord pour situer déjà cette région du monde que personne à l'époque parlait, quoi. Donc ça déjà par ces biais de connaissances du monde, oui, j'avais été marqué, quoi. Quelques lectures aussi comme tout un chacun, mais le fait quand même de se déplacer sur place et de découvrir l'Afrique avec mes parents, ça a été vraiment extraordinaire, quoi. Alors après, on est allé avec toujours mes parents, je suis allé sur le Maroc, sur l'Algérie aussi, l'Algérie du Sud, le Hoggar, où là, pour la première fois, en fait, le voyage s'est mêlé avec une dimension spirituelle, où on voit des couleurs, où on se dit il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible.
Explique une dimension spirituelle. Donc là, tu es dans le désert du Hoggar. Hein. Donc là, on est en Algérie, pas trop loin du Maroc, dans un désert magnifique.
Oui, on est dans un désert de pierre avec des couleurs inimaginables qui vont du bleuté, qui vont dans les orangés aussi. Et justement, enfin, en contemplant un coucher de soleil ou un lever de soleil, On est touché par une beauté qui nous dépasse, quoi, en fait, qui nous prend. Et c'est là où on se dit qu'est-ce qui nous prend, quoi, en fait. Parce que c'est pas nous, quoi. Je veux dire, ça vient d'ailleurs, quoi. On est vraiment piqué par un élément extérieur, quoi. Alors cet élément extérieur, est-ce qu'on l'appelle Dieu, est-ce qu'on l'appelle, je ne sais pas, mais on se dit il y a quelque chose, quoi. Et on reste effectivement là de longues minutes sans parler, il y a silence, il y a un vent qui souffle un peu, qui nous caresse aussi la peau, quoi. Et on reste là à plusieurs pendant de longues minutes sans rien dire, à contempler ces paysages, quoi. Et de ça, effectivement, on en est marqué pour le reste temps de nos jours, quoi. Voilà.
Mais force de cette expérience avec le voyage, ça ouvre sur d'autres réalités, d'autres croyances, d'autres modes de pensée. On peut pas rester dans l'indifférence, mais il y a quand même un moment où on va rentrer en France. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on vient en France et qu'on est riche de cette expérience et qu'on n'a peut-être pas forcément envie d'accepter les choses qu'on a vues? Tu parles de cette misère, de cette famine.
Alors après, justement, ça s'est traduit, j'allais dire à mon insu, quoi, en fait, hein, ça m'a marqué comme ça. Et au retour en France, en évoluant, en grandissant, dans un premier temps, je me suis investi dans des associations aussi, tant et si bien que dans les années 2000, là, je me suis posé la question, en fait, d'arrêter le travail que je faisais et de me tourner vers l'humanitaire, quoi. Donc là, j'ai pris 3 mois de congé sabbatique et je suis parti au Liban. Au Liban, c'était au lendemain du 2001. Je suis parti le 4 novembre 2001. Il n'y avait personne dans l'avion, hein, d'une direction, alors pas Beyrouth. J'étais parti à côté à Amman. Et de Amman, j'ai rejoint Beyrouth, où là j'étais en relation, en fait, avec pareil une personnalité qui m'a beaucoup marqué, quoi, qui est un docteur et qui lui s'occupait des lépreux au Liban. Alors s'occuper des lépreux au Liban, il y avait d'autres priorités et il faisait un travail de fou, quoi, en fait, hein. Et là j'ai découvert, oui, ce que c'était la lèpre aussi, le côté social de la chose, c'est-à-dire on est banni quand on est lépreux, tant et si bien que lui travaillait au-delà des recherches médicales et au-delà de donner des médicaments, il travaillait beaucoup sur le lien social, quoi. Et notamment, il y avait en Syrie, à Damas, dans la banlieue de Damas, en fait, il y avait, parce que là, je ne sais pas les nouvelles, hein, qu'ils sont, il y avait une léproserie qui regroupait tous les lépreux du Proche-Orient, en fait. Et dans cette léproserie, il y avait un couple qui avait été là depuis des années et des années, et c'était leurs parents qui s'en étaient défaits parce que leurs parents avaient découvert que leurs enfants avaient attrapé la lèpre, quoi. Tant et si bien qu'ils les avaient abandonnés et qu'ils les avaient mis dans cette léproserie. Et ce docteur cherchait justement à renouer les liens entre les parents et les enfants de cette léproserie, et il est allé voir justement les parents qui habitaient le nord Liban. Donc on est dans des régions très pauvres du Liban aussi, dans le nord, et là justement le côté marginalisé des lépreux, l'exclusion a été jusqu'au point de manifester, donc de la façon suivante, c'est que la mère a dit: mais j'ai jamais eu d'enfant lépreux, quoi, c'est pas, non, c'est des bêtises, quoi. Et alors au retour après, Je me suis... Alors, je n'ai pas quitté mon boulot. J'ai travaillé à temps partiel, par contre, pour donner plus de temps aux associations. Et là, notamment ces dernières années, je suis sur l'association, en fait, sur les thématiques autour des demandeurs d'asile, quoi. Parce que justement, c'est pas le tout non plus de voyager, d'aller être touché par ces thématiques des populations qui vivent aux quatre coins de la planète avec des difficultés, mais c'est également de voir ces mêmes populations qui cherchent l'exil en France, ici, sur nos territoires, et toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées, quoi. Donc mon engagement maintenant, parallèlement à mes voyages que je poursuis aussi, c'est surtout d'être pragmatique, terre à terre, et de voir un peu justement comment je peux apporter mon aide ici à ces populations qui sont dans des souffrances dramatiques, quoi. Et notamment là, moi je suis d'Albertville et sur le bassin albertvillois, voilà, on a les problèmes en fait donc des demandeurs d'asile qui, une fois leur demande faite, se retrouvent après bien souvent déboutés. Et parallèlement à leur demande, une fois déboutés, en fait, ils n'ont plus l'assistance des autorités françaises pour leur permettre d'avoir accès à toutes les procédures de recours, quoi.
Mais ce que j'entends, Jean-Louis, dans ton parcours, dans ton univers, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de voyage, ça devient aussi un effet de mode. De plus en plus de gens consomment du voyage, consomment de l'ailleurs, consomment de l'authentique, de la différence. Mais toi, j'entends vraiment cette démarche humaine. Donc le voyage, pour toi, c'est avant tout la rencontre et vivre une expérience humaine forte.
Oui. Mais en fait, moi, j'ai été touché comme ça dans mes voyages à l'étranger, et je comprends. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas être touché justement quand on croise ces populations de demandeurs d'asile dans des situations dramatiques qui sont ici, quoi. J'ai du mal à faire effectivement à mettre une barrière entre les deux. Je veux dire, j'ai intégré vraiment que la planète, c'est un grand village, et qu'on a la chance ou la malchance d'être né sur tel trottoir, comme dit Forestier, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et justement, j'ai du mal également à intégrer le voyage comme simple consommation, quoi. Et d'avoir toujours un fossé, je suis des fois, oui, étonné entre certains discours de grands voyageurs, quoi, et qui, de façon pragmatique, ont parfois des distances avec ces exilés qui côtoient, qui peuvent côtoyer à côté d'eux, quoi, ou pas de leur immeuble, peut-être, quoi.
C'est vrai. On n'est pas tous nés, comme tu le dis aussi, sous la même étoile. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce projet de livre. Comment est-ce qu'il est né? Et que maintenant tu m'emmènes avec, enfin que tu nous emmènes à la découverte de ce qu'on va y trouver dans ton livre et de cet itinéraire qui t'a emmené en Inde. Non, je crois que c'est en Inde ou au Bangladesh.
Voilà, au Bangladesh et puis après en Inde. Donc pour revenir, voilà, sur le voyage proprement dit. Donc ça, c'était en 2008. Où j'ai eu la chance de rencontrer une personne sur Internet qui m'a donné les coordonnées d'un conducteur de rickshaw exerçant à Dakar. Donc j'ai pris un billet d'avion pour Dakar et j'ai été rencontrer cette personne. Donc j'ai débarqué à Dakar un dimanche et le mercredi, j'étais dans une compagnie de rickshaw dans la banlieue de Dakar.
Mais tu avais déjà un projet déjà avant, tu avais une idée en tête, j'imagine.
Alors, l'idée, voilà, c'était suite à mes précédents voyages en Inde où ces populations de conducteurs de rickshaw m'avaient beaucoup touché. Je voulais aller voir comment ils vivaient de près, quoi. Voilà, c'était seulement ça. Et pour savoir comment ils vivaient, l'idée, c'était d'acheter un vélo-taxi, un rickshaw au Bangladesh, parce que le pays du rickshaw, c'est le Bangladesh, par excellence. Voilà. Et après, de rester deux mois sur le Bangladesh et puis de traverser l'Inde avec, pour toujours, pareil, rencontrer ces conducteurs de rickshaw. Alors, c'était pas l'idée de faire un reportage journalistique, quoi que ce soit. C'était à titre personnel. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai pris ce billet d'avion pour Dakar. J'ai acheté, avec cet ami conducteur de rickshaw, un rickshaw aussi. à Dhaka. Donc j'ai circulé dans Dhaka avec lui. Nous sommes allés dans sa famille, donc c'était au nord du Bangladesh. On a fait 120 km là avec le rickshaw. Alors lui, il me suivait à vélo, quoi, en fait, hein, parce que lui était conducteur de rickshaw, donc il ne comprenait pas trop de lui imposer, en plus à lui, de rouler 80 km avec un rickshaw. Donc lui, il avait un vélo et moi, j'avais mon rickshaw. Donc on a voyagé comme ça. Et puis, au bout de 2 mois, j'ai quitté cet ami. Et je suis parti sur les routes tout seul du Bangladesh pour rejoindre l'Inde et puis ensuite traverser l'Inde d'est en ouest, quoi, en fait. Hein. J'ai rejoint Calcutta et puis après j'ai suivi la vallée du Gange qui m'a amené jusqu'à Delhi. L'idée initiale c'était d'aller jusqu'à Bombay, il m'a manqué du temps donc j'ai été jusqu'à Amritsar, la frontière du Pakistan. Et puis je suis revenu à Delhi où là j'ai donné mon rickshaw à un conducteur de rickshaw qui n'en avait pas. Et puis voilà comment le voyage s'est terminé, quoi.
Je vais m'intéresser à ce métier de rickshaw, voilà. Donc, chaque conducteur a son propre rickshaw ou est-ce qu'ils appartiennent à une compagnie qu'on va louer et on reverse un loyer ou une partie pour la location de son vélo? Comment ça se passe? Comment c'est organisé?
Alors, être rickshaw, voilà, d'abord, c'est un métier que les gens font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est bien souvent des gens qui ne savent pas lire, pas écrire et qui ne font ça que pour améliorer leurs conditions de vie parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir avec leur métier de paysan. Très souvent, ce sont des paysans et qui viennent à la ville dans leur idée pour faire le temps, un temps donné, le temps de mettre un peu d'argent de côté éventuellement ce métier-là. Donc, ils rentrent en ville et là, de contact en contact, facilement, ils se mettent en relation avec un propriétaire, un Malek en bengali, et qui, lui, a une flotte de vélo-taxi. Là, la compagnie où j'étais, il en avait 100. Sans vélo-taxi et qui louait à la journée, à la demi-journée ou à la nuit. Voilà, il y a tout qui se fait, quoi. Et pour se donner quand même un rapport de force, alors les conducteurs de rickshaw ne sont pas les gens qui gagnent le moins au Bangladesh. Pour autant, à peu près, ils gagnent, on va faire simple, ils gagnent 2-3 euros par jour. Sur les 2-3 euros, ils vont en donner un au propriétaire. Donc le propriétaire, le soir, il a 100 euros, tandis que chacun de ses conducteurs vont en avoir 2. Voilà. À l'époque, moi, en 2008, à 1 euro, je dormais dans un hôtel. Ok, c'était pas clean, c'était pas le gros luxe, quoi, mais c'était un hôtel quand même dans le Dhaka, quoi. Donc pour se rendre compte, en fait, dans le vieux Dhaka, pour se rendre compte de l'inégalité sociale qu'il y a entre ces compagnies de rickshaw, enfin ces propriétaires, qui gagnent 100 euros par jour, et leurs concitoyens à qui ils louent, et qui gagnent, eux, 2 euros, quoi. Voilà, dans le rapport de force. Pour autant, j'ai été très surpris, c'est qu'il n'y avait pas d'état de revendication de ces conducteurs de rickshaw. Ils étaient contents d'avoir un boulot, et ils avaient un rapport amical, aussi fou que cela puisse paraître, avec leur patron, quoi. Moi, je m'attendais quand même, alors peut-être de par notre culture, de par notre histoire, dans un rapport plus quand même conflictuel. Pas du tout. Et moi, j'ai été complètement étonné, ébahi. Hein. Et plusieurs fois, j'aurais tendu la perche pour cela. Enfin, en disant, c'est pas possible. Et ben si, c'était possible. Et ben, ils étaient contents parce qu'ils ont du boulot, quoi. Les 2 euros, voilà, quoi. Et puis, ils sont pas dans notre système de comparer, enfin, un point final, quoi. Voilà. Donc, de façon majoritaire, ce sont des gens qui ne sont pas propriétaires. Les seuls propriétaires, moi, que je vais rencontrer au cours de mon voyage, ça va être soit des touristes qui, sur un coup de cœur, ont acheté un rickshaw à une personne, voilà, soit sur l'Inde, notamment, des rickshawalas qui vont être assistés par des associations. En fait, parce que en fait, ces personnes-là ne vivent que dans l'urgence, en fait. Donc, d'aller mettre de l'argent de côté pour éventuellement un jour acheter un rickshaw, c'est pas possible. On ne sait pas ce que devient, ce que ce qu'on va devenir après-demain, quoi. Donc on vit dans l'instant T, et cette notion d'économie, s'ils n'ont pas un entourage autour, ils ne le font pas, quoi. Et c'est assez fou, du reste, ils sont tellement, en fait, dans le quotidien. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'ai quitté mon ami conducteur de rickshaw, qui n'était pas propriétaire, et il me dit mais où tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas devenir de partir comme ça sur les routes avec un rickshaw. Et il s'inquiétait pour mon sort, alors que moi, j'avais portable, argent, tout. Et lui, qui vivait dans des conditions très précaires, qui savait pas ce qu'après-demain il allait devenir, ben non, ça lui posait pas de problème, parce qu'ils y pensent pas, en fait, hein. Voilà, quoi. Et ils s'inquiétaient, par contre, pour moi, qui allait partir sur les routes, voilà, quoi. De toute façon, ils vivent dans des... aussi précaires que cela, que leur monde est, ce sont des repères, quoi. Et dès qu'ils sortent de ces repères, c'est la panique. Avec lui, on est allé sur l'est du Bangladesh, dans une région qu'il ne connaissait pas. Et le soir, donc, je voulais que moi me promener, en fait, visiter le soir les marchés, tout ça. Il me disait, non, on n'y va pas, parce que, eh ben, il n'avait plus du tout ses repères, quoi, en fait.
Il y a une dimension qu'on voit pas à la radio, donc maintenant on a compris, les rickshawalas ne sont pas propriétaires de leur propre vélo, les louent et doivent donner une grande partie de ce qu'ils gagnent au quotidien au patron. Et le quotidien, donc là on est à Dhaka, donc la capitale du Bangladesh, qui est une des villes les plus peuplées au monde.
Alors, comme je disais, ils viennent des campagnes, donc dans ces compagnies de rickshaw, Ils sont hébergés sur des planchers de bois, et là c'est gratuit. Bon, ils peuvent, quoi, en fait, hein, il n'y a rien du tout, ils viennent avec leur moustiquaire, donc voilà où ils dorment. Ensuite, ils vont partir donc à la journée, dans une atmosphère vraiment polluée, dans une circulation infernale. Donc Dhaka, oui, c'est une des villes les plus polluées, et puis socialement, surtout également, on va toujours les dénigrer. C'est-à-dire que même un conducteur de rickshaw qui va toujours exercer au pied du même hôtel, on ne va jamais l'appeler par son nom et son prénom, bien que le patron le connaît. On va dire « Hey, rickshawala, viens ici, quoi. » C'est toujours cette terminaison de population bannie. Avec mon ami, là, rickshawala, on s'est fait chasser à coups de jet d'eau sur un trottoir, parce qu'on était devant un hôtel. Et moi, plus tard, en Inde, je vais expérimenter ça aussi, c'est-à-dire qu'on va me dire, mais clairement, que je ne trouverai pas d'hôtel, il n'y a pas de place pour moi, quoi. C'est-à-dire que quand d'abord je suis rentré sur Calcutta par le Bangladesh, il y a 80 bornes entre les deux, et j'ai cherché effectivement des hôtels entre une fois passé la frontière. Et là, on me dit, il n'y a pas de place. Bon. Ben moi, je n'avais pas réalisé, il n'y a pas de place, bon, pourquoi pas. Et donc, j'ai campé là. Et quand je suis arrivé à Calcutta, j'avais garé mon rickshaw, en fait, dans la rue, et je suis rentré à pied sous une voûte sur un hôtel qui était à l'arrière. Donc, il ne m'avait pas vu, en fait, hein, avec mon rickshaw. Donc, je négociais la place, en fait, mon prix de chambre, quand là est arrivée une personne en courant, et qui s'est adressé au patron. J'ai seulement compris dans leur conversation rickshaw, parce que ça se dit pareil. Et là, le patron se tourne vers moi, il me dit, mais c'est toi qui as le rickshaw dehors, là? Ben, je lui dis, oui, il me dit, ben, je ne peux pas le garer. Je lui dis, comment ça, vous ne pouvez pas le garer? Il avait une grande cour. Et il me dit, alors déjà, pour commencer, j'ai plus de place pour toi, déjà. J'ai plus de chambre. Alors qu'on était en train de négocier, hein, voilà. Et ensuite, tu ne trouveras pas d'hôtel en Inde avec ton rickshaw. Et moi, j'y croyais pas. Et si, tout au long de mon voyage, en fait, donc au préalable, moi, j'étais allé déjà en Inde à plusieurs reprises, voyageant tout seul. Et là, bien que je sois tout seul, je vais rencontrer une foule d'hôtels qui vont me dire, mais nous sommes pleins, on n'a pas de place, on n'a pas de place. Et en arrivant, en fait, les gens se regardent, en fait, les tenanciers de l'hôtel, ils sont deux à l'entrée, là, ils se regardent, ils me dévisagent, ils se regardent avec un grand sourire, et puis ils me disent, it's full, it's full, it's full. Et c'est complet, l'hôtel, c'est complet.
Et en tan occidental, c'est étonnant, ça, c'est incroyable. En général, bah, tu as le dollar qui est gravé sur ta peau.
Eh ben oui, sauf que là, moi j'étais un peu l'étranger qui allait leur faire du poil à gratter, quoi. En m'intéressant à une caste, enfin une caste, pas une caste au sens littéral du terme, mais à une population qui eux-mêmes marginalise, quoi. Donc au nom de quoi, moi l'étranger, j'allais leur rappeler ça et j'allais prendre entre guillemets la cause des conducteurs de rickshaw. De quel droit je me permettais ça? Donc du coup je subissais davantage les remarques comme ça. Et même sur l'ouest de l'Inde, là ça va être la cerise sur le gâteau, où une personne, alors ils trouvaient sympa l'idée que je m'intéresse aux conducteurs de rickshaw, quoi, voilà. Et dans leur élan, des fois, des Indiens me disaient, bah, viens ce soir, je t'invite à manger, je t'invite à dormir. Et moi, ça me semblait naturel. Je veux dire, c'est pas que je les prenais au mot, mais ils m'invitaient, quoi. Et sur l'ouest de l'Inde, en fait, comme ça, une personne me dit, ouais, ce soir, je t'invite chez moi à manger. Et bon, donc j'arrive le soir à la ville. Je l'appelle, j'avais le téléphone, et il me dit, ben, finalement, on ne va pas manger chez moi, mais on va manger avec des amis. C'était des pharmaciens, donc là, on est vraiment dans une classe élevée. Et puis, on mange ensemble, et en sortant, il me dit, ben, tu vas venir avec moi, chez moi, et je t'héberge. Mais exactement, ça va être mon copain qui va t'amener en moto. Bon, ben, tu laisses le rickshaw ici, moi je pars devant en voiture. Bon, pourquoi pas? Donc il part, machin, on commence à partir en moto, et là, le téléphone qui sonne. Bon, je décroche, et c'était lui qui me dit, ben, c'est dommage, il y a des nouvelles lois qui viennent de sortir aujourd'hui en Inde, et on n'a pas le droit, j'ai pas le droit d'héberger, en fait, un étranger chez moi. Voilà, là, ça a été le pompon, en fait, c'est-à-dire qu'il prétextait de cette loi pour pas vouloir en fait héberger une personne qui voyageait à rickshaw, et qui plus est, effectivement, moi j'ai voyagé à rickshaw en longi, en fait, avec cet habit. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que initialement, le Mustapha, là, le conducteur de rickshaw de Dhaka, m'a dit, bon, en rickshaw, voilà, ça prend un longi et des sandales aux pieds. Donc moi j'étais dans les vieux quartiers là de banlieue de Dhaka, dans les quartiers populaires. Ben, on a été acheté le longi et puis les sandales, et j'ai fait en grosse majorité mon voyage comme ça, et c'est tout aussi confortable. Mais quand je voyageais comme ça, inviter quelqu'un comme ça chez soi en Inde, non, c'était pas tolérable, voilà, socialement c'était pas possible. Donc j'ai vécu, oui, la marginalisation de ces gens, mais moi c'est pas grave, parce que après je rentrais chez moi, quoi, alors que eux ils le vivent au quotidien, quoi. Et au terme de ce voyage, en fait, après, j'ai écrit, en fait, parce que je suis tombé amoureux du Bangladesh, et j'ai écrit mon récit de voyage, en fait, sur ces 2 mois passés au Bangladesh, qui raconte mon amour pour le Bangladesh, et puis la description aussi de leurs conditions de vie, de ces conducteurs de vélo-taxi, quoi. On est tous reliés par un fil, quoi, en fait, et... j'ai du mal à concevoir l'indifférence par rapport à d'autres populations qui sont à l'autre bout du monde, quoi. C'est le lien, quoi. Moi, je ferais voyage égal lien, quoi. Cette sensibilisation à ce lien-là, quoi.
Merci Jean-Louis.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.